Loué le Seigneur, c'est la dernière réunion, le dernier jour de la fête. Ce ne sont pas des versets si faciles pour lesquels je me suis préparée. Quand je me suis préparée, je me suis dit, oula, ça va être une haute exigence. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais ceci. Peut-être que certains d'entre nous pensent, ah, faut pas faire ceci. Mais ce n'est pas le seul passage où il y a beaucoup d'indications, de prescriptions. Peut-être qu'on doit voir la structure de la lettre aux Éphésiens. Dans les trois premiers chapitres, il y a la vision élevée, la prière pour cela, qu'on doit reconnaître le Seigneur, reconnaître son plan, le saisir ensemble. En fait, on aurait pu s'arrêter après le chapitre 3. Mais Paul connaissait l'homme. Il a écrit la lettre aux Éphésiens depuis sa prison de Rome. Il avait visité des églises en Asie, il avait beaucoup d'expérience. Et c'est comme ça qu'il commence ce chapitre. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, Éphésiens 4, 1. Donc les chapitres 4, 5 et 6 parlent de notre marche pratique dans ce plan, dans le plan de Dieu. Il ne s'agit pas d'être des bonnes personnes, mais il s'agit d'accomplir son plan. Il s'agit de notre marche, que ce qu'on fait, c'est ça qui est décisif. En fait, Paul, il aurait pu écrire comme il a écrit dans Galates, marcher selon l'esprit, et puis c'est terminé. Qui peut contredire ça? Mais parfois, on a besoin des directives. À quoi ça ressemble, marcher selon l'esprit? On a besoin de toute la parole, depuis tout le début jusqu'à la fin. Toute la parole, nous dit Paul, est écrite selon Dieu, est inspirée de Dieu. Et c'est écrit pour nous. Je lis encore, par exemple, dans Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui est écrit à l'avance, donc ça se réfère à l'Ancien Testament, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains 15, 4. J'aime pas trop le mot Ancien Testament. C'est l'Ancienne Alliance, c'est la Bible. Aujourd'hui, on se trouve dans une nouvelle alliance et l'Ancien Testament se réfère à l'Ancienne Alliance, mais c'est une seule parole, une seule écriture. Ce qu'on lit dans l'Ancien Testament, comment Dieu se comporte, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut, c'est le même Dieu dans le Nouveau Testament. Il n'a pas changé, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc dans l'Ancien Testament, on peut aussi voir comment Dieu se comporte, comment il agit. Corinthiens 10, des versets que j'espère vous connaissez. Corinthiens 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc là, il se rapporte à la marche dans le désert. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc nous pouvons apprendre beaucoup de choses de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Par exemple, si on commence avec Genèse, là on peut voir comment l'homme a été créé et comment Dieu a pensé que l'homme devait vivre. Il a créé l'homme, il lui a donné une femme. Ça, c'est ce qui est normal. Et c'est Dieu qui l'avait prévu comme ça. Et dans Genèse, il est écrit, il l'a créé. En tant que féminin et masculin, c'est les deux genres qui existent, il n'y a pas d'autres. Peut-être qu'on peut s'imaginer d'autres sexes, mais Dieu a créé deux. Un homme et une femme donnent un couple. Et on voit dans l'Ancien Testament, quand ce n'était pas le cas, il y a eu des problèmes. J'ai relu il n'y a pas longtemps l'histoire de Jacob, et puis c'est vraiment une famille un peu patchwork. Il y avait tellement de problèmes, c'est incroyable. Mais ce sont des problèmes qui ont été créés par l'homme parce qu'ils ne se sont pas tenus à ce que Dieu avait prévu. Il y a l'expression actuellement, enfin, qui est déjà là depuis longtemps, tu dois regarder qu'est-ce qui est bien pour toi. Si tu recherches conseil, alors tu demandes, ah, je dois faire ceci, je dois faire cela. On te répond, ah, regarde ce qui est bon. Mais si tu veux savoir ce qui est bon, regarde dans la Bible. Ça fait du bien aux hommes de s'en tenir à ce qui est écrit dans la parole. On a besoin de toute l'écriture. On a l'esprit. On connaît l'esprit. C'est pour moi, c'était une immense découverte de découvrir ça quand je suis arrivé dans l'église. Un esprit avec le Seigneur. Et cet esprit est pratique. Cet esprit me soutient. Je peux vivre. Cet esprit est la vie. Mais j'ai quand même besoin de certaines instructions à quoi ressemble cette marche en esprit. Parce que j'ai aussi une âme. C'est aussi bien et correct comme ça. C'est l'expression. Sans l'âme, il n'y a pas d'expression de l'homme. L'homme a été créé en tant qu'une âme vivante. Et l'âme doit être dirigée par l'esprit. On a une éducation, on a une formation, on a un métier, on a des expériences. Et au travers de ça, les sentiments de l'esprit sont un petit peu falsifiés. Ils sont un peu pas très sûrs. Nos intentions, nos souhaits, c'est plus si pur. On a un sentiment de l'esprit. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais au travers de des souhaits de notre âme, le sentiment de l'esprit est un petit peu flouté, un peu plus très clair. C'est bien de voir comment Dieu juge certaines choses, comment il les voit. Dans l'Ancien Testament, c'est pas seulement des histoires pour la réunion d'enfants. C'est l'écriture qui a été écrite pour nous. Nous avons besoin de cette parole pour avoir cette capacité de discernement. Il y a une parole qui mentionne l'âme, l'esprit et le corps. Alors je demande à toutes les personnes en dessous de 30 ans s'ils peuvent me citer ce verset. Qui connaît le verset? Plus fort. Hébreux 4, 12. Il appartient à l'alphabet que vous devez tous connaître. De l'école primaire spirituelle. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à Dieu de tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Parfois, on reconnaît même pas nous-mêmes qu'est-ce que notre cœur aimerait, mais la parole peut le rendre clair et peut trancher. Il peut juger les pensées de nos cœurs. On doit être conscient du fait que tout ce qui est autour de nous a une influence sur nous. Pas toujours une bonne influence. Ça m'a fait penser à l'histoire de Lot. Vous connaissez l'histoire? Je regarde si je trouve. Dans Genèse 13. Il ne devait même pas déménager, mais il a suivi Abraham, il est devenu riche avec Abraham, et à un certain moment, c'était les deux si riches qu'il n'y avait plus de place pour les deux, donc ils en sont décidés à se séparer. Abraham lui a dit, choisis ce que tu préfère, et Lot a choisi ce qui était le meilleur, selon ses yeux. Genèse 13, verset 12. Abraham habitait le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa les tentes jusqu'à Sodome. À ce moment-là, il habitait encore dans des tentes. Et puis petit à petit, il a déplacé ses tentes en direction de Gomorrhe. Il n'a pas tout de suite habité là-bas. Et si on lit le passage, J'aurais quand même dû noter. Je pense qu'il veut dire 19, 19. Genèse 19. Genèse 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Donc Abraham venait de négocier avec Dieu pour aller jusqu'à 10 justes. Selon Dieu, il y avait encore 4 justes à Sodome. Ça n'a pas suffi parce qu'il s'était accordé avec Abraham sur 10. Alors il a jugé. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Donc les anges sont venus chercher Lot et sa famille. Lot était assis à la porte de Sodome. Il avait fondé une famille, il a vécu là-bas. Il était une personne honorée là-bas. Et si on continue à lire l'histoire de Lot et de ses filles, c'est tellement horrible ce comportement. On ne sait même pas d'où vient la femme de Lot, mais probablement elle venait de Sodome. Probablement qu'elle venait de Sodome, c'est pour ça qu'elle s'est retournée. Et est devenue une statue de sel. Et le Seigneur la mentionne encore dans les évangiles et dit « Pensez à la femme de Lot ». Donc Lot est sorti. Ses filles ont fait des incestes avec lui. Ça a donné les Moabites et les Ammonites. Et on voit quelle influence les hommes, l'influence de Sodome, l'influence, l'environnement de Sodome avait une influence sur eux. Nous, on est dans le monde, c'est normal. C'est normal. Mais il faut savoir que ça a une influence sur nous, une influence sur nos goûts, sur nos pensées, sur notre capacité de discernement. On n'est pas complètement libre du monde qui est autour de nous. Il y a aussi le verset de Paul, 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. C'est une parole de l'Écriture. Donc on doit en être conscient. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole, de l'esprit, les frères et sœurs autour de nous, qui nous exhortent. C'est notre salut que nous d'être dans le corps, que d'avoir les frères et sœurs autour de nous. Et on doit être aussi ouvert et reconnaissant quand on reçoit une exhortation. C'est mieux de recevoir une exhortation d'un frère aujourd'hui que de se tenir devant le Seigneur et devoir se justifier plus tard. Alors, l'Écriture nous donne des instructions, des directives. Comment est-ce que c'est si je marche par l'Esprit? Donc ça, c'était l'introduction. C'est si important, je pense. Si on se dépouille du vieil homme, Paul dit, nous sommes dépouillés du vieil homme. Il dit, souvent il le mentionne. Est-ce que vous connaissez certains passages? 1 Pierre 2 et Colossiens aussi, on l'a lu hier. Il y a beaucoup de choses à déposer. Peut-être pas tout d'un coup, mais chaque fois que le Seigneur nous donne la lumière dans sa parole, il y a des choses à déposer, à se dépouiller. Et souvent, quand je fais une faute, je remarque, j'aurais dû me dépouiller de cette chose. Se dépouiller du vieil homme commence par se purifier du passé. Mettre de l'ordre dans notre vie. Dans Luc 19, l'histoire de Zachée. Celle-là non plus, c'est pas que pour les enfants. Luc 19. Il y avait un homme riche appelé Zachée. Il cherchait à voir Jésus. C'est important pour nous, peu importe dans quel état nous sommes, peu importe où nous sommes, que nous cherchions le Seigneur, que nous venions à lui, que nous nous consacrons à lui. Pas à se retirer. Mais il ne pouvait pas y arriver à cause de la foule. Il est monté sur un sycomore. Il est assis sur l'arbre. Je m'imagine que Jésus reste sous l'arbre et qu'il regarde vers le haut, et il dit à Zachée, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Verset 8, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Jésus lui a encore rien dit. » Et Zachée lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Il a vécu comme ça. Je prends tout pour moi, mais la moitié, je donne aux pauvres. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Est-ce que c'est pas merveilleux? Zachée a mis de l'ordre. Dans Actes 19, il y a une histoire semblable. Verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ici, c'est important de voir. C'était pratiqué à la vue de tout le monde, publiquement. J'ajoute encore quelque chose. Si j'ai des mauvaises pensées à propos de quelqu'un, mais que je ne les ai jamais exprimées, je dois le confesser et le purifier devant le Seigneur. Si j'ai parlé de quelqu'un, mal parlé de quelqu'un à une autre personne, je dois le confesser publiquement. Il y a une différence si c'est resté en nous ou si c'était public. Si j'ai volé à quelqu'un, je dois le rendre. Et ça ne suffit pas de le reconnaître devant le Seigneur. Oui, ça fait partie, mais je dois le rendre. Si d'autres l'ont appris, je dois aussi leur dire que j'ai réglé cette situation. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant porté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Si on ne fait pas d'ordre dans notre vie, la parole deviendra toujours plus faible. Notre vie doit être en accord avec la parole. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, doit être en accord avec la vie que nous menons. Je veux pas dire que on doit creuser en nous, voir tout ce qu'il y a. Non, si le Seigneur te montre quelque chose, si tu deviens conscient de certaines choses, alors tu dois purifier. On ne peut pas vivre contre la parole de Dieu. On pourrait, oui. Mais ce serait aucun avantage pour nous. Pour aucun. Mais la parole que nous parlons deviendrait toujours plus faible. Mais si nous faisons de l'ordre, la parole du Seigneur va croître en puissance et en force. La parole nous donne la lumière. Et dans Jean, c'est écrit. Le plus facile, c'est de le lire. Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Si nous venons au Seigneur, surtout à la parole, il va nous donner la lumière. Il va briller. Et c'est jamais une faute de s'orienter selon cette lumière qu'on reçoit. Peut-être qu'on n'y arrive pas. Et puis on change. On est des hommes. On s'adapte. Mais on peut toujours venir vers le Seigneur et répandre nos cœurs devant lui. Et si tu crois que tu n'y arrives pas, alors tu dis au Seigneur, Seigneur, je n'y arrive pas. Mais je suis sûr, nous y arrivons avec le Seigneur. Ce que le Seigneur demande n'est jamais impossible. Parce que Paul a dit, tout ce que le Seigneur veut, c'est aussi possible. C'est pour ça que j'ai pris dans Éphésiens le chapitre 5, le verset 1 aussi. Donc, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. On a la vie en nous, nous sommes nés de nouveau. On peut le faire. C'est possible. Cette parole, s'il y a quelque chose qui... Cette parole va nous amener à la repentance s'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans Romains 2, le verset 4, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa main, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Romains 2, 4. Si, de toute façon, je n'ai pas l'intention de mettre de l'ordre, de ranger quelque chose, ça ne sert à rien, je peux déjà m'arrêter. Il y a un verset que vous commencez probablement pas, dans Job, un livre dans lequel vous lisez probablement pas souvent, Job 33, verset 29. Voilà tout ce que Dieu fait deux fois, trois fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour éclairer de la lumière des vivants. Job 33, 28, 29. Il le fait deux fois, trois fois, mais au bout d'un moment, la porte est fermée. Dans Exode, c'est la même histoire avec les 10 plaies. Et plusieurs fois, il est mentionné, il a endurci son cœur. Au début, il est mentionné, Pharaon a endurci son cœur. Pharaon avait sa chance 6 fois, mais à la fin, c'était trop tard. Et il est écrit, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Je ne pense pas que c'est un chiffre absolu, mais ça montre que il y a une limite. Noé a bâti. Il a annoncé, il a annoncé la justice. Et au bout d'un moment, Dieu a fermé la porte. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. Donc pour nous, c'est important que nous traitions nos cœurs, que nous les gardions tendres, doux. Un cœur qui se tourne, ça ne fait pas de sens de retenir quelque chose. Rien du tout, ça n'apporte rien. Parce que, à un moment ou à un autre, on va se tenir devant le Seigneur et on devra l'expliquer. Donc, si aujourd'hui je veux garder mon point de vue, je ferais mieux de réfléchir déjà à quelle excuse je vais donner au Seigneur quand je me tiendrai devant lui. Ça commence avec Adam dans Genèse 3. Dieu vint vers Adam. 3:12. L'homme répondit : la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et puis la femme dit ensuite, ça vient du serpent. À chaque fois, on accuse quelqu'un d'autre. Personne ne veut prendre la responsabilité pour ce qu'il a fait. Et ça continue au chapitre 4 avec Caïn. Caïn bat son frère. Mais le problème initial de Caïn, dans Genèse 4. Donc ça parle avec leur sacrifice. Caïn a fait un sacrifice sans verser le sang. Il a fait quelque chose pour Dieu. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il a fait quelque chose inverse à ce que Dieu voulait. Et Abel a tué un agneau. C'est pour ça que l'offrande d'Abel était acceptée par le Seigneur. Caïn a battu son frère. Et l'Éternel lui demande, où es-tu? Il a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Aucune idée. Je ne suis pas le gardien de mon frère. C'est vraiment typique de l'homme déchu. Depuis le début. Et un bon exemple, si vous voulez le lire, c'est dans 1 Samuel. Ça montre vraiment la vieille nature de l'homme, l'histoire de Saül. Samuel 15. Alors, il doit faire la guerre contre les Amalécites et il n'y a rien qui doit rester. Israël gagne, mais ils épargnent le meilleur. D'un point de vue humain, oui, je peux le comprendre. Ça fait une bataille, tu épargnes le meilleur, tu veux le garder. Dieu devient fâché. Samuel devient fâché. Samuel va vers Saül. 1 Samuel 15, depuis le verset 12, il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. C'est bien, non? Il s'est érigé un monument de victoire. Il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Ça, c'est vraiment... c'est vraiment le comble. C'est pas si mauvais d'être conscient de soi. Aujourd'hui, on l'entraîne ça. Une conscience de soi saine, c'est bon. Mais là, c'est exagéré. C'est complètement un aveuglement. Et Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. On doit vraiment lire mot après mot. C'est très impressionnant cette réaction. Saül n'a aucune relation avec Dieu. Il dit à Samuel, l'Éternel ton Dieu. Il n'a aucune relation avec Dieu. Verset 15. Samuel lui dit, il va lui dire qu'est-ce qui va arriver. Et puis verset 20, il dit, j'ai écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple, c'est toujours le même principe. chez moi, tout est en ordre, mais les autres. Et Samuel répond au verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dans Romains 12, 11, il dit aussi, il faut marcher d'une manière digne de la foi. La foi, c'est bien, mais l'obéissance, si on a vraiment la, il faut vraiment l'obéir, lui obéir, obéir à la foi. Au chapitre 10, quand Saül a été investi par Samuel, il y a trois choses qui sont mentionnées. Verset 1 Samuel 10, 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses. Mais... Saül était de la tribu de Benjamin. Et il doit aller aux sépultures de Rachel. Parce que Rachel, c'est la mère de Benjamin. Saül était benjamite et il devait aller à la sépulture de Rachel. Donc, si on fait quelque chose, ça doit passer par la mort et la résurrection. C'est la première chose que Saül a dû voir. Il faut tout doit passer par la mort pour qu'une chose nouvelle. Et il a à la mort de Benjamin, Rachel est décédée. Au verset 3, tu iras plus loin, tu iras aux chênes de Tabor, tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu. À Bethel. L'un portant trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, te donneront deux pains et tu recevras de leurs mains. Ça nous montre, nous avons besoin de la communion les uns avec les autres. On ne peut pas le faire tout seul. Nous avons besoin des autres. Et doit être aussi ouvert à accepter quelque chose d'autre. Et pas dire non, j'ai pas besoin de toi, je veux rien recevoir. Non, on doit recevoir ce qui vient des frères et sœurs. Le troisième point, verset 5, tu arriveras à Geba Elohim, la montagne de le Seigneur, où se trouve une garnison de Philistins. La montagne de la colline de l'Éternel et là-bas la garnison de Philistins, c'est un petit peu contradictoire. Alors, en entrant dans la ville, tu rencontres une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe. Et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Ces trois choses ont été révélées à Saül. Le dernier point montre que l'ennemi est là, mais on doit quand même louer le Seigneur avec les tambourins, la flûte, le luth. On a toujours une fête devant la face du Seigneur. Même si l'ennemi est là, il ne doit pas nous détourner, nous empêcher de louer le Seigneur. Saül aurait pu apprendre ces choses, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. L'huile. Saül a été oint avec une huile qui venait d'une fiole et David a été oint avec une huile qui venait qui était dans une corne. Et puis la corne ne se brise pas. Apprends à connaître le Seigneur dans sa parole. Il nous touche. Et ça doit nous aider, nous amener à une consécration, comme on a vu dans Zachée. Quand on voit ce qu'il a fait pour nous, pas seulement ses souffrances, tout ce qu'il nous a donné, tout l'approvisionnement qu'il nous donne, il nous a révélé son plan et nous a transporté dans son plan. Ça devrait mener à une consécration. On doit prendre conscience qu'on a été racheté, on lui appartient. Pierre 1, 19. Verset 18 déjà. Pardon, c'était 1 Pierre 1, verset 18 et 19. Il y a encore des versets importants dans 1 Corinthiens. Vous avez été rachetés à un grand prix. C'est pourquoi glorifiez Dieu dans vos corps. Si on connaît le Seigneur, comme Zachée, il y a beaucoup de choses qui vont changer. On va être libéré de beaucoup de choses. Je sais qu'on ne parle pas d'argent. Il n'y a pas de cotisation des membres. Mais le Seigneur peut nous faire rendre libres de la cupidité, mais Dieu peut nous rendre libres de la dépendance à l'argent. Dieu aime celui qui donne généreusement. C'est pas important combien tu donnes, mais comment tu donnes. Tu peux donner beaucoup en serrant les dents, mais tu peux donner peu avec beaucoup de joie. C'est bien de se donner soi-même au Seigneur, de donner ce qu'on a, pas seulement matériellement, mais aussi notre temps, surtout dans cette époque où personne n'a le temps. Mais la plupart, en général, c'est surtout une affaire de priorité, de choisir qu'est-ce qui est important. Dans 4 semaines, on doit nettoyer toute la salle. Qui est-ce qui vient? Aujourd'hui, déjà, tu dois décider que tu vas y aller pour nettoyer la salle. Peu importe s'il y a du bon, beau temps ou mauvais temps. Peut-être qu'il y a du beau temps et tu préfères faire une excursion. Je laisse un petit peu ouvert. Je dis oui, j'ai du temps, mais peut-être que là, derrière, dans ma tête, on verra, peut-être. Mais dire aujourd'hui, oui, je réserve, je viens dans 4 semaines pour nettoyer. Vous connaissez ça dans Ésaïe, comment elle a été appelée dans Ésaïe 6. Il voit le Seigneur, il voit la gloire du Seigneur. Il est conscient qu'il a des lèvres impures et le Seigneur le purifie. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, on verra. Je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici. Ça, c'est une bonne réponse. Si quelqu'un vient te dire, ah, on a besoin de quelqu'un pour la réunion d'enfants, alors me voici, tu réponds. On va un petit peu aller plus rapidement. J'ai déjà parlé beaucoup. Se revêtir du nouvel homme. Connaître l'esprit. L'esprit et la parole vont ensemble. C'est comme la colonne de fumée et la colonne de feu. C'est deux témoins, ils vont ensemble. Et on marche selon ça. Nous sommes conduits par l'esprit selon la connaissance de la vérité. La vérité est une personne. Il y a un verset intéressant dans 3 Jean. Jean écrit beaucoup à propos de la vérité. 3 Jean. J'ai été fort réjoui lorsque tes frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. 3 Jean 3. Témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité, je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Nous marchons selon la vérité. Ta vérité ne signifie pas que j'ai une certaine doctrine à laquelle je m'accroche. Et je m'accroche avec corps et âme et j'attaque tous ceux qui m'attaquent. Non, c'est la vérité du Seigneur. Et c'est pour ça que Paul doit écrire beaucoup. Vous étiez distrait et vous devez se pardonner réciproquement et parler, échanger sur la vérité. Se dépouiller du mensonge, ça ne veut pas seulement dire ne pas mentir. Le Seigneur dit une fois, vous avez le Satan pour père, vous avez le mensonge. Satan est le père du mensonge. Je peux aussi mentir en gardant la bouche fermée. Toute l'hypocrisie, montrer quelque chose qu'on n'est pas, c'est un acte de mentir. Tout ça, on doit se dépouiller, être ouvert, transparent, aussi dans notre marche, dans nos intentions, l'honnêteté commence avec l'honnêteté envers soi-même et envers Dieu. Tous se dépouiller de tous ces mensonges. La colère en soi n'est pas un péché, mais si nous sommes en colère, ça peut arriver que nous péchions. Ne donnez pas accès au diable, verset 27 dans Éphésiens 4. On doit être conscient de ça, de ne pas donner accès au diable, de ne pas laisser rentrer quelque chose. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. C'est quelque chose, c'est une habitude là. On peut dire le voleur. C'est quelqu'un qui, c'est son habitude de vie. Comme Zachée. Mais plutôt qu'il travaille. Ne plus dérober, mais travailler. En faisant de ses mains ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ça veut dire, il nous retourne complètement, il nous change complètement d'un voleur à celui qui donne. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Une parole mauvaise. Ça arrive si facilement, si vite. Quelque chose qui va blesser, quelque chose qui n'aide pas à l'édification. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est possible que nous attristions le Saint-Esprit. C'est bien de développer un sentiment pour ça et de se retenir au bon moment. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le dernier point est aussi important. Que l'ennemi n'ait pas de place. C'est quelque chose que nous devons nous pardonner. J'aimerais encore lire avec vous 2 Corinthiens 2, 10 et 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. S'il y a des choses qui ne sont pas pardonnées, alors, Satan peut avoir l'avantage sur nous. C'est des choses qui travaille en nous, qui nous rendent amers, qui endurcissent nos cœurs. Si je ne pardonne pas, c'est moi qui ai un problème. On lit encore Luc 17, 3 et 4. C'est des choses importantes. Je m'excuse de prendre du temps comme ça. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. C'est important. Les deux sont importants. Pardonner, se repentir et pardonner. Mais si quelqu'un pêche contre moi, je ne peux pas exiger une repentance. Je ne peux pas exiger une repentance. Mais c'est nécessaire de ma part que je pardonne. Alors, le dernier point. Dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous décidons, nous devons être fixés sur l'édification. J'ai cherché des versets, sûrement qu'il y en a d'autres. Chercher ce qui sert à l'édification. Plaire au prochain pour l'édification, qu'il n'y ait pas de pierre d'achoppement. Je réfléchis, qu'est-ce qui édifie? Qu'est-ce qui m'édifie avec le frère? Qu'est-ce qui édifie? Dans 1 Corinthiens 14, et nous voyons que chaque service, chaque don doit servir à l'édification. C'est important de savoir de chaque talent, chaque don est là pour l'édification. S'il y a une grande personne qui a la facilité à parler, il sait bien parler, mais ça n'édifie pas. S'il y a des hommes qui sont sauvés, c'est bien. Mais le but de chaque don, c'est qu'il y ait l'édification. Et ça, c'est un critère aussi pour discerner. Si tu as un don, mais que ça n'aide pas à édifier l'Église, oublie. Ce qui n'édifie pas va probablement déchirer. C'est jamais neutre. Ce qui n'édifie pas l'Église va probablement la déchirer. Nous voulons bâtir l'Église. Ça ne doit pas forcément être le plus important, mais il y a une récompense. Nous voulons être là quand le Seigneur revient en tant que les vainqueurs. Nous voulons être là en tant que les vainqueurs. Et c'est pour ça qu'il nous donne l'approvisionnement. Il nous a donné la vie de l'Église. Nous le connaissons. Nous avons l'Esprit. Nous avons sa vie. Nous sommes approvisionnés richement. On a aucun manque à aucun don. Pourquoi tu ris? J'imagine que tu te réjouis. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de difficultés. Il n'y a aucune promesse qui dit que nous n'avons pas de difficultés. Mais dans tout cela, nous avons un riche approvisionnement. Ne sous-estime pas la vie de l'Église. C'est extrêmement important pour nous. Si tu dois décider où tu vas étudier, sincèrement, je n'irai pas là où il n'y a pas d'église, de frères et sœurs. C'est personnellement. Je vous laisse décider. Chacun décide pour soi. Chacun est responsable de ses propres choix. Mais ne va pas pousser la responsabilité chez quelqu'un d'autre. Ne fais pas comme Adam. Ne fais pas comme Cain. Ne fais pas comme Saül. Ne rejette pas la responsabilité. Nous décidons et nous sommes responsables pour notre responsabilité, nos décisions. Le Seigneur nous a donné une tête, un entendement, nous a donné l'esprit et nous pouvons décider. Et nous décidons pour le Seigneur, nous nous consacrons pour la vie de l'Église, pour l'édification de l'Église.